Que peut espérer l'Algérie pour ce retour 12 ans après en Coupe du Monde? Quelle ambition? 16e de finale, 8e de finale, quart de finale. Que pensez-vous? Que pensons-nous? Surtout du travail de Vladimir Petkovic, le sélectionneur. Et puis, question brûlante également, Riyad Mahrez est-il forcément dans le 11 type des Fenech? C'est parti pour l'After Coupe du Monde spéciale Algérie.
RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes.
Nicolas Jamin.
Avec nos deux invités qu'on est heureux d'accueillir dans cet épisode Coupe du Monde Algérie, Mehdi Dak est avec nous, fondateur et rédacteur en chef du média DZ Foot. Salut Mehdi.
Salut Nicolas.
Heureux de te retrouver, habitué de l'after, et notamment pendant la CAN, pendant les CAN. Avec nous, un ancien international algérien, tout simplement, Karim Matmour est avec nous, 30 sélections, buteur en quart de finale de la CAN en 2010 contre la Côte d'Ivoire. Il avait marqué le premier but des Fenech. Salut Karim.
Salut.
Très salut, heureux Mehdi. De t'avoir à nos côtés. Ta carrière, je le dis pour ceux qui ne sont pas au courant, essentiellement en Allemagne aussi, hein, Mönchengladbach, Fribourg notamment, l'Eintracht Francfort aussi, pour ta carrière en club, au-delà de la sélection, était 30 sélections. Alors l'Algérie, qu'est-ce qu'on en pense? Quelle ambition pour un retour 12 ans après? On se souvient bien sûr de ce 8e de finale face à l'Allemagne, future championne du monde en titre. Derrière, l'Algérie garde un grand souvenir de cette rencontre bien sûr, et une déception à l'arrivée. Mais parlons de celle qui approche le Mondial 2026 aux États-Unis. Voici la fiche. Comme on le fait d'habitude, de l'Algérie. Regardez, l'Algérie 28e au classement FIFA. Deux Coupes d'Afrique des Nations remportées, 1990 et 2019. Une Coupe arabe en 2021. Cinquième participation seulement, j'ai envie de dire, à une Coupe du Monde. Meilleur parcours, je vous l'ai dit, ce huitième de finale au Brésil face à l'Allemagne. Le calendrier, pour être tout à fait complet sur ce qui attend les Fenech sur ce début de compétition, la phase de groupe, voici 17 juin, Algérie-Argentine, le gros match de ce groupe à 3h du matin à Kansas City, je parle en heure française, le 23 juin, 6 jours plus tard, Algérie-Jordanie, 5h à San Francisco, et puis on terminera par le match à gagner aussi, Algérie-Autriche à 4h à Kansas City. Il n'est pas simple, hein, Mehdi, ce programme pour les Fenech. L'Autriche, beau morceau également, petit outsider, 4 buts encaissés seulement en phase de qualification pour le Mondial, leader de son groupe. Et puis en plus, pour l'histoire, on n'oublie pas le match de la honte, hein, en 82 entre l'Allemagne et l'Autriche qui s'était mis d'accord, hein, pour sortir l'Algérie. Pas simple ce parcours, Mehdi, hein.
Non, franchement, ça va être compliqué, notamment pour les déplacements. C'est qu'il va y avoir un gros déplacement à partir de Kansas City au Californie puis revenir. Commencer par le champion du monde, ce qui n'est vraiment pas évident, même si ça peut toujours offrir un goût de frisson. Finalement, finir par l'Autriche, c'est peut-être pas si mauvais, puisque comme tu l'as évoqué, il y a un motif de motivation assez important avec ce contentieux de 1982.
Exactement. Le match à gagner absolument, c'est la Jordanie. Je rappelle que les 8 meilleurs troisièmes des 12 groupes seront qualifiés, même si l'Algérie ambitionne une deuxième place. Et pourquoi pas une première, sait-on jamais. L'Argentine, il en parlait à l'instant, Mehdi, Karim, c'est mieux de les prendre dès le premier match également. On se rappelle, hein, en 2022, les Saoudiens qui avaient battu l'Argentine.
Exactement, oui. Vaut mieux les prendre tout de suite, parce que même eux, dans leur préparation, je pense qu'eux, ils vont se préparer pour aller jusqu'au bout. Donc au début, c'est pas là où ils sont les plus frais. Donc vaut mieux les jouer là, avec, en espérant un petit peu qu'ils nous respectent pas trop, qui nous sous-estiment comme ils l'ont fait avec l'Arabie Saoudite lors de la dernière Coupe du Monde.
Alors, revenons, avant d'évoquer les ambitions des Fenech dans ce mondial, sur la campagne de qualif, satisfaisante, on peut la qualifier ainsi. Puis, en janvier, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est notre dernière référence, hein, sur l'état de forme de cette sélection menée par Vladimir Petkovic, achevée sur une déception et une inquiétante impuissance en quart de finale de la CAN contre le Nigeria, un match épouvantable où l'Algérie semblait dépassée, même s'il y a eu des débats sur l'arbitrage, on ne va pas y revenir ici, alors qu'on s'était mis à rêver, hein, sincèrement, après la phase de poule notamment et le jeu déployé. Sincèrement, on ne sait pas à quoi s'attendre avec cette sélection, messieurs. Quelle ambition elle peut nourrir? Il y a des talents évidents, mais sont-ils bien utilisés par cet homme, Vladimir Petkovic, qu'on voit là sur la photo, ensemble, arrivé en février 2024? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il tire le meilleur de son groupe, Petkovic? Mehdi.
Franchement, c'est compliqué. C'est encore compliqué. Il y a des motifs d'espoir, notamment, tu as parlé de la CAN. Il y a eu aussi la préparation en Italie, avec un match contre l'Uruguay. On a vu des petites phases de jeu pas dégueulasses. C'est vraiment très intéressant, du jeu à 3. Et on se dit qu'il y a du potentiel. Mais de là à Franchement, tabler à miser sur quelque chose, c'est compliqué. On attend encore un peu de voir, je pense.
Karim, tu es d'accord avec Mehdi?
Ouais, je suis d'accord. Je pense que le coach, il se cherche encore. Il n'a toujours pas trouvé son 11 type, spécialement au milieu où il fait encore des essais. Là, quand on voit à la Coupe du Monde, le milieu de terrain, c'est certain qu'il ne sera pas le même que pendant la CAN. Et en même temps, il doit gérer une phase de transition entre les anciens, à l'image de Riyad Mahrez, Aissa Mandji, et la nouvelle génération qui arrive
Eh oui.
avec Haj Moussa, Maza.
On va débattre, hein, notamment de Riyad Mahrez dans un instant. Je rappelle qu'il est arrivé en février 2024, hein, Vladimir Petkovic. 28 matchs au total, 21 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 53 joueurs utilisés. Il a rempli son objectif, hein, surtout la qualification pour la Coupe du Monde. C'est un homme qui est assez mystérieux, qui ne justifie jamais ses choix, qui manque un peu de pédagogie. On va regarder la liste des 26. Il a du mal à expliquer certains choix critiquables ou critiqués en Algérie, Mehdi.
Oui, c'est bon. Déjà, il y a la barrière de la langue, donc il y a sur quoi traduire. On lui pose des questions en français ou en arabe et il répond en italien. C'est retraduit en français. On n'a pas forcément tout le discours, mais oui, mais globalement, oui. Hein, là, certainement, notamment, il y a le cas de l'absence de Bounedjah, l'attaquant de pointe, et il n'a pas répondu, n'a pas du tout donné de réponse claire sur sa mise à l'écart, qui date déjà du mois de mars. Et en gros, on doit lire un petit peu entre les lignes pour comprendre. Pourquoi est-ce qu'il a fait des choix? Parce qu'il ne veut pas répondre. Là, il nous a sorti une formule un peu bizarre. Il a dit, moi, je parle des présents, je parle pas des absents. Voilà, je parle du. Voilà. En gros, il garde le positif. Et il veut pas justifier ses choix. Bon, nous, on aimerait bien quand même parce qu'on vient en conférence de presse. Sinon, faut pas faire de conférence de presse. Hein.
Exactement, je suis d'accord avec toi. Alors lui, il dit même précisément, je n'ai rien contre les absents, je suis pour les présents. Bon, c'est une formule rhétorique pour s'en
Voilà.
tirer. Tu as cité Bagdad Bounedjah, Ismaël Bennacer n'est pas là non plus, Ilan Kebal n'est pas là non plus. Voilà les trois cas qui prêtent à discussion et à débat. Karim, lequel parmi ces trois-là qui n'est pas dans la liste risque de plus manquer à la sélection selon toi?
Bah pour moi, clairement, j'en ai parlé déjà, c'est Bounedjah. Parce que c'est lui qui a donné un statut à Bounedjah d'attaquant de pointe. C'est le joueur le plus utilisé en termes de temps de jeu depuis le début de la saison. Aussi en termes de profil, c'est le seul joueur capable dos au jeu de pouvoir garder les ballons, permettre au bloc de jouer vers l'avant et de remonter.
M'entendez?
On n'a pas d'autres profils non plus
M'entendez?
exactement comme lui là dans l'effectif. Il s'enlève une cartouche en fait finalement.
Bounedjah absent, un taulier, et en plus, j'ai envie de dire, Mehdi, c'est un profil différent. Il a raison, Karim, à l'instant. C'est une cartouche différente sur le front de l'attaque algérienne, quoi. Il en aurait bien besoin.
Oui, là il compte beaucoup sur Guiri. Guiri c'est un joueur qui dézone, c'est pas un joueur qui reste dans la surface. On a vu le voir dans certains matchs, on a besoin de joueurs qui fixent devant. Face à de grands gabarits, qui a une grosse débauche d'énergie, et c'est le cas de Bounedjah. Il y a un autre profil qu'il a pris, c'est Ben Bouali, qui s'approche un petit peu de Bounedjah, mais il n'a ni son expérience, ni. On ne connaît pas encore vraiment. Voilà, il est tout jeune, enfin tout jeune en sélection, il a 27 ans, c'est un joueur qui arrive. Donc c'est compliqué d'enlever un taulier comme ça, avec ce profil-là, d'attaquant pur neuf de surface, pour prendre un nouveau qui a deux sélections seulement.
Ouais, exactement. Alors Bennacer, c'est encore autre chose. Il a manqué pas mal de matchs, il a été blessé souvent cette saison. Ilan Kebal, nous on le voit souvent, et vous aussi, j'imagine, ici en Ligue 1 avec le Paris FC. Là aussi, c'est une déception. Il était de la CAN. Il était entré en jeu ou pas? Même pas, hein, je crois pas. Quelques minutes seulement, Mehdi, sur
Ouais,
la
il a
CAN.
joué 10, 11 minutes, je crois.
Ouais, c'est
Il a dû
ça,
jouer 11 minutes au
Karim.
final pendant toute la CAN.
Exactement. T'aurais aimé le voir toi aussi, Karim, ou pas, Ilan Kebal, dans ce groupe?
Ben forcément, entre ce qu'il montre dans la Ligue 1, c'est un joueur sur lequel on aurait aimé le voir en équipe nationale, mais il a jamais réellement eu sa chance. Après, là, il a fait une déclaration, le coach, par rapport à ça, Petkovic. Il l'a nommé numéro. En fait, il a donné le classement par poste en disant que voilà, lui, il le considérait ailier droit. Ailier droit numéro 1, c'était Riyad Mahrez. 2, c'était Haj Moussa. 3, c'était Khedmonis. Et il était numéro 4. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas sélectionné, c'est parce qu'il est quatrième à ce rang-là. Mais
Bon.
moi, la question un petit peu en tant que fan, on se dit oui, mais il n'y avait peut-être pas une autre façon de faire, de pouvoir ajuster en fait les postes et pas forcément les mettre poste par poste. Je ne sais pas, avec Riyad Mahrez, comme là, on va en parler de Riyad Mahrez qui est sur le côté, mais on peut peut-être le mettre dans l'axe ou autre part. En tout cas, ne serait-ce qu'au moins d'essayer des variantes avec ces qualités-là, parce que c'est des qualités qui ne sont pas négligeables. Hein.
C'est des qualités pas négligeables, son rapport au ballon, la finesse technique d'un Hélène Kebal. Tu voulais réagir également, Mehdi.
Oui, franchement, je pense que moi, je ne vois pas en Hélène Kebal un ailier. Ce n'est pas un pur ailier, ce n'est pas un milieu relayeur. Donc, je pense que le vrai problème de Kebal, c'est que c'est ça aussi. C'est un joueur un peu hybride. Et dans le système de jeu dans lequel on va jouer, soit avec des purs relayeurs, soit avec des ailiers, vraiment de purs ailiers, c'était peut-être un peu compliqué de trouver une place pour Kebal, mais il fallait justifier, il fallait qu'il nous explique techniquement, ne pas nous dire que c'est un ailier quatrième, parce que même en tant qu'ailier, je ne vois pas quatrième derrière un joueur comme Regimis qui joue en série B.
Oui, je suis d'accord,
donc,
bien sûr.
J'ai un peu de mal à comprendre un peu l'explication du coach, même si on peut comprendre techniquement.
Bon, en revanche, lui, il est bien là. Alors, il ne s'agit pas de contester sa présence dans les 26, mais le débat, c'est doit-il une place, mérite-t-il une place dans le 11. C'est Riyad Mahrez, vous l'avez déjà cité, bien sûr. C'est un énorme sujet en Algérie, ici aussi en France, on en parle. De Riyad Mahrez, je rappelle, hein, l'affiche d'identité, nommé 4 fois Ballon d'Or, légende. 113 matchs en sélection, 38 buts, 44 passes décisives, c'est absolument énorme, c'est considérable. Ce sera sa dernière Coupe du Monde, il l'a assuré, il ne sera pas là en 2030. Mais il a été titularisé pendant la CAN également. On a vu les matchs. Toi, Karim, toi, Mehdi, je l'ai trouvé emprunté. Je l'ai trouvé un peu vieux, pour être très honnête, avec tout le respect qu'on doit à Riyad Mahrez. Et là, contre les Pays-Bas, avant d'aller match, avant le Mondial de préparation, titulaire encore une fois. Il faisait ses 35 ans encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez? A-t-il, je vous pose la question frontalement, encore sa place, son rond de serviette incontestable dans le 11 de l'Algérie? Mehdi, je commence avec toi.
Franchement, contre les Pays-Bas, je l'ai trouvé quand même plutôt affûté. Il a pas mal défendu par rapport à ce qu'on avait vu avant, ce qu'on lui reprochait. Il descendait pas mal. Il y a eu quelques pertes de balles dangereuses qui auraient pu nous coûter des buts parce qu'il descendait aider un petit peu à sortir les ballons. Mais oui, c'est plus l'ailier, c'est plus un ailier qui va déborder devant, qui va faire la différence balle au pied. Ça, on le sait. Donc, il apporte quelque chose d'autre. Mais est-ce qu'il peut être titulaire tout le temps? Je ne suis pas certain. Sur le match contre les Pays-Bas, il a apporté ce qu'il fallait pendant une mi-temps. C'est peut-être ça son rôle. Il y a des matchs où il pourra apporter son expérience et d'autres matchs où il pourra peut-être apporter son expérience en rentrant en cours de jeu au moment où l'équipe a du mal à tenir le ballon, par exemple.
Ton regard là-dessus, Karim, hein, tu le connais bien, Riyad également. Comment on l'utilise? Parce qu'il a un rôle, effectivement, c'est le lieutenant aussi de Petkovic. Ils sont très proches tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses?
Le problème, déjà, pour moi, c'est au niveau tactique. C'est-à-dire qu'avec le dispositif qu'a mis Petkovic, je veux dire, il joue avec trois devant, donc c'est le couloir droit. Et couloir droit, il faut avoir du coffre. Et il l'a un petit peu moins. Et il n'est plus trop le joueur qui percute balle au pied. C'est-à-dire qu'il a un autre football qui est aussi très intéressant, sur lequel le coach pourrait essayer de faire l'utiliser différemment. Et parce que là, c'est vrai que couloir droit, faire les allers-retours, monter, il fait les efforts, mais il n'a plus le jeu de le peps d'avant.
Il n'a plus le coup de main qui faisait sa légende, exactement. Quoi. Et quand on voit ce que c'est faire un Hajj Moussa, ce qu'il a fait, bon, il y a son but fabuleux contre les Pays-Bas, ce qu'il a fait cette saison avec Feyenoord, moi, j'aurais tendance à préférer un Hajj Moussa dès le coup d'envoi, par exemple, et avec un Riyad qui peut entrer sur les 20 dernières minutes pour distiller des ballons coup de pied arrêtés, finir tranquillement, garder le ballon aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mehdi.
Bon, là, hier, contre les Pays-Bas, on a vu une défense à 4, alors qu'on s'attendait à une défense à 3. Et dans ce schéma-là, c'est vrai qu'on a vu que face à une équipe costaud, difficile, top mondial, comme ça va être l'Argentine, on ne va pas faire le jeu. Donc, je pense qu'on va plus miser sur des relayeurs au milieu, jouer les contre-attaques plus dans l'axe. Et en deuxième mi-temps, lancer des purs ailiers comme Hajj Moussa ou Boulbina. Et donc, dans ce cas-là, Mahrez, il n'a pas un rôle d'ailier vraiment. Il a un rôle un peu de milieu de terrain, ni vraiment relayeur, ni vraiment ailier. C'est quelqu'un qui va aider un peu libre. Donc, ça dépend du schéma tactique, en fait, le choix. Je pense qu'on ne veut pas vraiment jouer avec des ailiers quand on n'a pas la possibilité de faire le jeu à 100%.
Bon, ce qui va compter également, c'est les phases de transition. On fait une pause. On va parler dans un instant du gardien numéro 1. Y a-t-il vraiment un numéro 1 dans la sélection? Lucas Zidane est-il l'élu pour garder la cage de l'Algérie pendant ce mondial? Ibrahim Maza au programme également. L'ambition, l'objectif Algérie sur la Coupe du Monde. Reste avec nous. L'after Coupe du Monde spécial Algérie. Quelle ambition pour les Fenech de retour 12 ans après dans un mondial? Alors, la question du gardien. Lucas Zidane est arrivé au sein de la sélection pour la dernière CAN, la Coupe de l'Afrique des Nations, c'était au Maroc. Numéro 1, il était titulaire, le choix de Petkovic. Depuis, il s'est blessé. On l'a vu réaliser son meilleur match depuis qu'il a rejoint les Fenech contre les Pays-Bas en match de préparation. Qu'en pensez-vous? Est-il désormais, dans l'esprit de Petkovic, et puis dans le vôtre également, l'incontestable numéro 1 de la sélection? Mehdi, qu'est-ce que t'en penses?
Franchement, on avait beaucoup de doutes sur les derniers matchs, après la CAN, surtout après le fait qu'il était blessé, il n'a pas joué, on l'a vu avec son masque. On a vu un entraînement en Algérie au moment, le jour où l'annonce de la liste, des vidéos qui faisaient peur parce qu'on voyait qu'il évitait des tirs. On s'est dit, bon, c'est pas possible, il n'est pas prêt. Et donc, sa titularisation, c'était, voilà, c'est soit il comptait sur lui, donc il fallait qu'il le mette dans le bain avec son masque, soit il testait un autre gardien, notamment Ben Boat. Et finalement, il a compté sur lui et il nous a tous fait taire parce qu'il a réalisé un match quasiment parfait, quasiment 10 sur 10, hein, mais si ce n'est quelques dégagements un peu ratés, tout le reste, les interventions, les arrêts, il a fait 6 arrêts. Il a été vraiment excellent et rassurant.
Karim, t'es surpris par son niveau également? Je rappelle qu'il a réussi quand même à s'imposer à Grenade, hein, en Liga 2, Division 2 espagnole, qui s'est maintenu cette saison. Qu'est-ce que t'en penses de ce gardien-là? C'est lui le tour numéro 1 également?
En tout cas, s'il y avait un doute le concernant, après le match de la Hollande, il n'y en a plus. Donc après le match de la Hollande, il est devenu clairement le numéro 1. Maintenant, il n'y a plus de débat, je crois, il n'y a plus de sujet. Il a démontré, voilà, il a été très sollicité, il a été serein, on n'a pas senti de fébrilité à aucun moment. Et donc voilà, maintenant aujourd'hui, il n'y a plus de sujet à son niveau.
Bon, c'est très bien, c'est à moi la question est réglée, surtout après ce match face aux Pays-Bas. Je trouve qu'il dégage aussi une vraie autorité, Lucas Zidane. Alors, parlons des pépites. Nous, quand on parle de l'Algérie dans l'afterfoot, on nous parle tout le temps d'Ibrahim Maza. Ibrahim Maza, on en parle quand on fait des sujets sur la Bundesliga, quand on parle de Bayer Leverkusen avec Paulo Breitner. Lui, Paulo, adore ce joueur, les Algériens l'adorent également. Il a été bon aussi pendant la CAN. Regardez sa fiche, Ibrahim Maza, 20 ans. 1m80, 44 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, 5 buts, 7 passes décisives. Les stats ne sont pas spectaculaires, mais Ibrahim Maza, c'est plus que ça, c'est des décalages, c'est de l'audace également sur le terrain. Comment vous qualifiez la place d'Ibrahim Maza dans cette équipe-là, et qu'attendez-vous de lui sur ce mondial, Mehdi?
Franchement, quand on a vu Aouar titularisé face aux Pays-Bas, on se pose des questions. Parce que nous, on a vu Maza, on a vu ce que peut apporter Maza dans ce rôle de relayeur. Comment est-ce qu'il joue, démarre dos au but, comment il a ses accélérations, ses contrôles orientés, ses démarrages. C'est un joueur généreux, physiquement costaud, il a une certaine vision de jeu. Ça n'a pas été non plus son meilleur match, hein. Il est entré en cours de jeu contre les Pays-Bas, mais on l'a vu dans d'autres matchs avant. C'est vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup à 20 ans. C'est vrai qu'il manque un peu d'expérience, mais il compense par tout le reste.
Est-ce qu'il peut être, Karim, selon toi, malgré ses 20 ans, le leader offensif de la sélection?
Alors, moi, je veux juste mettre un peu en parenthèse, parce que moi, j'étais pendant 3 ans dans la cellule de recrutement du Bayer Leverkusen.
Ah oui.
Donc je fais partie de la cellule qui l'a recruté.
Quand même, tu vois, je l'apprends. Bravo à toi, ouais, hein, bravo à toi, en tout cas.
Ouais. On l'a suivi quand il était à Berlin, et puis on l'a recruté en misant sur lui, sur cette future star avec des qualités assez particulières. Et là, en équipe nationale, pour répondre à la question initiale, pour moi, c'est le futur patron. Donc, il a toutes les qualités pour prendre le jeu à son compte. Et même hier, face à la Hollande, on le voit rentrer, même dans des situations difficiles. Il n'a pas peur de demander le ballon, de se retourner, d'aller vers l'avant. Même sous pression, il est capable de garder le ballon, d'être serein. Et il est tout le temps en mouvement. C'est vraiment un joueur qui est l'avenir de l'équipe nationale d'Algérie. Et je pense qu'il sera le patron même.
Alors, est-il dans votre 11? Regardez le 11 que j'ai imaginé. Et là, on peut en débattre. C'est un moment important, bien sûr, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez. Je vais le détailler, le 11 potentiel, probable de l'équipe d'Algérie. Regardez-le avec, dans le but, Lucas Zidane, on en a parlé. Une charnière centrale très expérimentée, Ben Sebaini, Aïssa Mandi. À droite, Belghali. Ait Nouri à gauche, un milieu à trois, Shaibi, Zerouki, Ben Taleb, Riyad Mahrez à droite, Amoura à gauche et Guiri seul en pointe. C'est très hypothétique, hein. Je crois que c'est toi, Karim, qui a dit tout à l'heure, il va falloir voir ce que va faire Petkovic. Tu penses qu'il n'a pas encore trouvé son 11? Est-ce que ça peut ressembler à ça? Si ça ressemble à ça, est-ce que ça te va, toi, Karim?
Non, parce qu'il y a des incompatibilités. Je veux dire, là, au milieu, il n'y a pas assez de mouvement. C'est des joueurs profil Zerouki, Ben Taleb, qui sont à peu près identiques. Donc, ça manque un peu de mouvement et ça va être statique. Surtout que Riyad Mahrez aussi, ce n'est pas un joueur qui va amener un gros volume de jeu. Donc cette combinaison, il l'a déjà testée, je ne pense pas qu'il fera ça. Moi, je mettrais un Mazza, justement, Bentaleb contre la Hollande, on a vu qu'il y avait Bentaleb dans l'axe avec Shaibi à gauche et Mazza à droite dans le milieu. Et c'est ce qui avait bien fonctionné avec à droite Haj Moussa. Donc c'était le sujet Riyad Mahrez de Haj Moussa ou bien Haj Moussa à droite. Mais spécialement le milieu parce que c'est le poumon de l'équipe. Et là, sur cette compo-là, ça manque de dynamisme.
Toi, Mehdi, qu'est-ce que t'en penses? Tu ferais quoi?
Bentaleb devant la défense, on le garde, c'est lui qui remplace Bennacer. Et ensuite, moi j'aurais mis un autre élément, si c'est Titraoui, c'est le joueur de Charleroi, qui pareil que comme Mazza, c'est des joueurs qui sont beaucoup en mouvement, qui peuvent apporter. Après, les compatibilités, je ne sais pas si c'est parfait, mais j'aime beaucoup ce joueur, moi je rajouterais ce joueur au milieu.
Bon, Bentaleb, qui n'était pas à la CAN, il sera là. Qu'est-ce que sa présence peut changer? Il a encore fait une excellente saison avec le LOSC, un titulaire à Lille. 37 matchs, toutes compétitions confondues, 2 buts, 2 passes. C'est pas forcément là où on l'attend, mais c'est un stabilisateur. C'est un homme incontestablement au-dessus du niveau, même en Ligue 1, Nabil Bentaleb. Qu'est-ce que sa présence peut changer, selon toi, Karim?
Ben en fait, ça va être la rampe de lancement. On avait Bennacer qui faisait ce rôle-là pendant la CAN, c'est-à-dire que le jeu passait beaucoup par Bennacer. Et là, Bentaleb, c'est le même profil, c'est-à-dire qu'il adore avoir le ballon, se retourner, et puis il a une vision de jeu, une qualité de passe qui est au-dessus de la moyenne. Donc c'est pour ça que pour moi, il va être devant la défense, ça va être en milieu de terrain la pointe basse, et le jeu va ressortir par lui.
Qu'est-ce que ça peut changer? Il l'a dit à l'instant, Karim, mais dit en termes d'autorité également sur le terrain, la présence de Bentaleb.
Alors, de l'expérience de la Coupe du Monde 2014, ça rajoute un élément de plus avec Aissa Mandi et Riyad Mahrez. Ensuite, c'est un joueur, comme l'a dit Karim, très technique. Il faut juste qu'il reste concentré sur son rôle. Parce que parfois, il aime bien faire des petits gestes un peu en plus parce qu'il est tellement à l'aise. Mais quand il arrive à trouver vraiment les éléments qui peuvent l'aider au milieu, quand il joue proprement, simplement, c'est un joueur qui est vraiment de classe mondiale.
Bon, et la charnière, on n'en a pas parlé pour l'instant, très expérimentée, Ben Sebaini, Mandi, beaucoup de sélections en commun, ensemble, ils se connaissent par cœur, ces deux-là. Est-ce qu'elle vous rassure? Est-ce qu'elle peut tenir sur la durée, sur ce mondial? Karim.
Ben, elle a déjà fait ses preuves, c'est l'expérience derrière. On manque un peu de vitesse, c'est la seule chose, mais on n'est pas censé jouer haut, donc on ne va aller pas dominer l'adversaire, donc ce n'est pas gênant. Mais par contre, oui, si, c'est des leaders sur le terrain et en dehors du terrain, les deux.
Il n'y a pas de
Donc il
débat,
n'y a pas de
Mehdi, hein,
débat
sur la charnière. Oui, c'est ça.
Bah, aussi, il y a peut-être un débat sur le si on joue à 3 ou à 2 centraux, en fait. On a vu qu'à 3, on pouvait être quand même un peu plus à l'aise. Karim a parlé de vitesse. Ça permet peut-être un petit peu d'être un peu plus rassuré. Et ça n'empêche pas d'avoir un milieu de terrain. J'ai vu, moi, la relation, notamment contre l'Uruguay. Quand on était à 3 derrière, on arrivait à sortir plus facilement le ballon. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était plus rassurés. Mais moi, je miserais quand même sur une défense à 3. Ce serait bien ça peut être intéressant contre l'Argentine.
Alors, une fois qu'on a dit ça, Mehdi et Karim, quelle ambition peut nourrir l'Algérie sur ce mondial? Faire aussi bien, voire mieux qu'au Brésil, ce 8e de finale contre l'Allemagne. Qu'attend la fédération et surtout le peuple algérien? Quel est l'objectif fixé à Petkovic, Mehdi?
Il n'y a pas d'objectif fixé, a priori. En tout cas, on n'en a pas entendu parler, si ce n'est de passer le premier tour. Voilà. Évidemment, nous, en tant que supporters, en tant que fans, on reste sur le presque quart de finale de 2014. On a failli sortir l'Allemagne. Et donc, du coup, bah oui, on reste ambitieux et on rêve encore d'un minimum de quart de finale. Mais il faut être réaliste. Et puis surtout, c'est une nouvelle compétition à 48. Ce n'est pas la même chose. Là, il y a un tour de plus après la phase de groupe. Donc, ça. L'idée, c'est surtout de faire bonne figure, de sortir du groupe le mieux possible, le mieux en, si on arrive à sortir en deuxième, voire pourquoi pas en première position, ce sera déjà ça. Ensuite, on gérera en fonction des adversaires qu'on rencontrera.
Alors je regarde là, en cas de deuxième place de ce groupe, ce sera contre le premier du groupe H en 16e de finale, qui pourrait être l'Espagne, attention, ou l'Uruguay, qu'Algérie a joué match nul. Si en revanche l'Algérie finit première, ce sera le deuxième de ce groupe H, donc Espagne-Uruguay a priori. Et parmi les meilleurs troisièmes, si l'Algérie fait parmi les meilleurs troisièmes, ça c'est impossible de dire pour l'instant. On ne peut pas encore savoir, il y aura trop, il faudra voir le statut, le classement des meilleurs troisièmes. Karim, qu'est-ce que tu en attends, toi? Bien sûr, sortir de la poule, ça c'est évident, au moins une victoire, voire 4 points. Si on est raisonnable, on peut se dire, allez, un succès contre la Jordanie, allez, un nul contre l'Autriche. ou contre l'Argentine, pourquoi pas. Et ensuite, qu'est-ce que tu attends, toi?
Ben après, c'est toujours ça dans ce genre de tournoi, c'est des matchs au coup. Donc tout est imaginable et tout est possible. On sait qu'on a une équipe qui est capable de tout, à l'image du match contre la Hollande. On a battu la Hollande, on est capable de battre après n'importe quelle équipe sur un tournoi, sur un match. Tout est faisable. Et donc voilà, nous, on est un peu, en tant que supporters algériens, un petit peu dans l'inconnu parce qu'on manque un petit peu de stabilité, de continuité un peu dans les équipes. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à se projeter. Mais on sait qu'à tout moment, on est capable de battre n'importe qui.
Exactement, je suis d'accord avec ça. Et on va suivre ça avec passion, y compris sur RMC. On vous rappellera, hein, pendant la Coupe du Monde, Mehdi et Karim, merci d'avoir participé à cette présentation des Fennec qui retrouvent un mondial 12 ans après. Mehdi Dahak, je le rappelle, fondateur, rédacteur en chef du Média DZ Foot. Allez-y, les infos, le suivi au quotidien de la sélection algérienne, notamment. Et Karim Etmour, international algérien, bien sûr, 30 sélections. Merci messieurs, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous.
Merci. Ciao, salut.
Et bonne Coupe du Monde, rendez-vous dès le 17 juin pour ce très alléchant Argentine-Algérie, 3h du matin à Kansas City. Bye bye.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.